Serdan Shaqiri, Granit Xhaka, Vallone Bérami pour la Suisse, Karim Benzema, Moussa Sissoko, Patrice Evra, entre autres, pour l'équipe de France. Autant de joueurs d'origine étrangère qui font parfois, qui font souvent le bonheur des sélections nationales de football, alors qu'un quart des Français a voté pour le Front National lors des dernières élections européennes, il y a un mois, et alors que la Suisse, au mois de février, a opté pour l'introduction de quotas d'étrangers. Est-ce que c'est un paradoxe? Si oui, comment l'expliquer? Qu'est-ce que l'identité nationale au juste est-elle différente? Lorsqu'on joue un mondial de football. Le plaisir ce matin de recevoir le philosophe Alain Finkielkraut. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans nos studios de Paris jusqu'à 8h. Votre dernier ouvrage portait précisément sur l'identité malheureuse, c'était son titre. On vous avait reçu d'ailleurs l'an dernier, Alain Finkielkraut. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi un amateur de football, ça tombe bien. Les équipes nationales, prenons la Suisse et la France, on a cité quelques noms. Est-ce qu'elles ont encore une identité nationale selon vous?
Il semblerait que l'équipe de France, on croyait que l'équipe de France avait perdu cette identité après les incidents de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, et puis après ses prestations tout à fait médiocres lors de la dernière Coupe d'Europe, et les Français d'ailleurs n'aimaient plus leur équipe. Ils avaient divorcé, le sentiment d'identification jouait d'autant moins que cette équipe n'avait pas d'identité de jeu et qu'elle semblait même bouder son propre pays. Les choses ont changé. Les Français, à leur propre étonnement, vivent aujourd'hui une sorte de nouvelle lune de miel avec leur équipe, parce que une équipe de football, ce n'est pas une addition, mais une mise en commun des talents individuels. Les joueurs qui ne pensent qu'à leur pomme, ayant déclaré forfait ou ayant été sagement mis à l'écart, on a retrouvé un état d'esprit tout à fait différent, une joie de jouer ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Cette équipe, si vous voulez, réussit à associer en quelque sorte l'élégance et l'efficacité. Les Français sont heureux de se reconnaître en elle aujourd'hui.
Alors ils s'identifient, les Français, à l'esprit qui traverse cette équipe, pas forcément aux joueurs. On se souvient de ce que vous aviez dit à la Finkielkraut en Afrique, pour l'Afrique du Sud, il y a 4 ans, par opposition à 98, quand la France avait gagné la Coupe du Monde, où on disait black, blanc, beurre. Là, vous aviez dit 2010, la France, c'est black, black, black. C'était une tentative de souligner l'échec du multiculturalisme à la française. Là, 2014, vous qualifieriez comment? Quel slogan pour cette équipe?
Je n'ai pas dit ça en 2010. J'avais dit ça en 2005 dans un entretien, si vous voulez, qui s'était déroulé dans des conditions extrêmement malhonnêtes.
C'est pas ce que vous vouliez dire alors.
Avec le journal Arès, non, j'avais voulu dire en 2005 que les émeutes en France prouvaient que cette France Black Bomber qu'on avait célébrée en 98 était largement une illusion, parce qu'elle était traversée, la France, de tensions culturelles extrêmement fortes. Et puis j'avais dit de manière adjacente, d'ailleurs aujourd'hui cette France n'est plus tellement black blanc beurre, mais c'était une mauvaise plaisanterie qui n'aurait jamais dû figurer dans l'entretien.
Et pour 2014, alors?
Pour 2014, non, mais de toute façon, la question n'est pas là. Il faut pas se polariser sur l'origine ethnique des joueurs. Ce qui importe, c'est leur état d'esprit. Il y avait des joueurs, si vous voulez, un peu voyous dans l'équipe de France en 2010, en 2012, mais ils pouvaient s'appeler aussi bien Jérémy Ménez que Samir Nasri. Ouais. Bon, voilà, cette mentalité, disons, des cités a été écarté. Et je rappelle que l'équipe qui a dominé le football pendant près d'une décennie, c'est l'équipe d'Espagne, qui est relativement homogène ethniquement. Donc je ne crois pas qu'il faille tirer de leçons particulières de la composition des équipes de football.
Cela dit, les équipes de foot racontent souvent l'histoire d'immigration des pays. Pour la France, l'Algérie, pas mal de joueurs algériens, etc. Pour la Suisse, il y a beaucoup de ressortissants d'ex-Yougoslavie, des Kosovas. Le football comme voie d'intégration, est-ce que vous y croyez, Alain Finkielkraut?
Écoutez, d'abord, pour les joueurs, on ne peut pas citer le football en exemple parce que c'est un sport pratiqué par tout le monde et ceux qui deviennent professionnels et qui a fortiori jouent dans les équipes nationales, c'est 1 sur 1 million. Donc on ne s'intègre pas par le football. Pour les spectateurs, c'est sans doute un peu différent. Sans doute gens d'origine étrangère aiment voir la diversité représentée au plus haut niveau, mais là encore, il faut garder les yeux ouverts. En France, il y a eu, après les matchs Algérie, Corée du Sud et Algérie, Russie, des manifestations de Français d'origine algérienne, extrêmement, si vous voulez, véhémente, et cela montre bien que pour ces Français-là, la patrie s'est élargie, l'Algérie. Donc, vous voyez, donc la diversité en France pose encore des problèmes, et le football est moins tant révélateur de l'unité nationale que d'une certaine désunion.
Alors, on est au cœur du sujet, Alain Finkielkraut. On va tout de suite réécouter ce que nous disait hier soir, c'était dans l'émission Forum sur notre antenne, l'islamologue Tariq Ramadan. Pour lui, les violences qui ont éclaté après la qualification de l'Algérie, vous y avez fait allusion, contre la Russie, sont le fait de petits groupes militants qu'il faut condamner avec vigueur. On le réécoute.
Comme dans toutes ces manifestations, vous avez des petits groupes qui sont marginaux mais qui font beaucoup de bruit. Ceux-ci ne représentent absolument pas la liesse populaire ou la liesse de l'ensemble de ces Français. D'ailleurs, il faut aussi dire que la majorité d'entre eux sont Français d'origine algérienne, voire ont la double nationalité, mais très souvent, ils ne sont que Français. Le côté marginal peut aussi être instrumentalisé, comme par le Front National, qui en fait maintenant une question sur l'intégration de ces jeunes Français. Alors, quand on gagne la Coupe du Monde, c'est la célébration de cette France de toutes les couleurs.
Black, blanc, beurre.
Voilà, exactement. Et quand l'Algérie gagne, ce serait l'échec de toute cette politique du vivre ensemble qui est en France aujourd'hui, qui est difficile, mais pour des raisons sociales, pas pour des raisons culturelles et religieuses.
Alors là, on a réécouté Tariq Ramadan qui était à Forum hier soir, Alain Finkielkraut. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Écoutez, parler de casseurs isolés, c'est, me semble-t-il, ne pas vouloir regarder la réalité en face, parce que il y a aussi une certaine violence dans l'envahissement sans permission et sans retenue de l'espace public, dans les rodéos de voitures organisés sur l'ensemble du territoire. Cette joie, si vous voulez, est tout à fait légitime, mais on peut exiger du respect et des égards pour les traditions et les sentiments du pays où l'on vit. C'est, me semble-t-il, la moindre des choses. Et on a vu aussi des manifestants à Provins remplacer dans les édifices publics les drapeaux français par des drapeaux algériens. Imaginez simplement ce que, disons, les autres Français peuvent penser d'un déploiement aussi ostentatoire. Ils sont surpris, ils sont mal à l'aise, et mettre cette surprise et ce malaise sur le compte de la sensibilité d'extrême droite, dire que c'est le discours du Front National, c'est, me semble-t-il, un faux procès.
Enlevons l'étiquette, revenons quand même sur ce qu'a dit Marine Le Pen, qui semble avoir imposé pour quelque temps ce débat, ou réimposé ce débat sur la double nationalité. Elle souhaiterait retirer la double nationalité en cas d'incident suite au match des pays d'Afrique du Nord, l'Algérie. On y est. Il faut choisir, selon vous, on est soit algérien, soit français, Alain Finkielkraut.
Non, je ne dis pas qu'il faille choisir. Je n'aime pas le discours sur la double allégeance. Mais d'un autre côté, on est en quelque sorte dans une double impasse. Quand on parle d'immigrés de la première ou de la deuxième génération, on est accusé de faire de la discrimination. Et ce sont, dit-on, des Français comme les autres.
C'est
mais
pas le cas.
Précisément, je n'en sais rien. Ces Français, en tout quoi, affichent un patriotisme algérien, comme si l'Algérie, c'était l'identité, et la France, ce n'était que la commodité. C'est cela qui met, en quelque sorte, beaucoup de Français mal à l'aise. Et, encore une fois, je ne crois pas, si vous voulez, que ce soit faire preuve d'ouverture, que d'accepter d'être traité sur son propre sol, sans la moindre considération, comme si l'on comptait pour du beurre. Et il me semble d'ailleurs que celui qui s'incline ainsi devant la force du nombre au nom du respect de l'altérité est méprisé par ceux-là même auquel il offre son soutien. Donc, et moi, j'ai rencontré beaucoup, un certain nombre d'immigrés qui étaient très surpris des manifestations et des débordements qui ont suivi les matchs dont nous parlons, Algérie-Corée du Sud et Algérie-Russie, et qui étaient plus surpris encore par l'atonie française. Donc je ne crois pas qu'il faille revenir sur la binationalité, mais je ne crois pas non plus qu'il faille criminaliser l'embarras des autres Français devant ce genre de manifestation.
Alors l'identité nationale, on sait que M. Sarkozy, alors président, a voulu en faire un thème. Est-ce que c'est véritablement un thème encore aujourd'hui pour vous, Alain Finkielkraut?
Je ne pense pas qu'il faille en faire un thème de débat, mais je crois que nous vivons aujourd'hui à la fois une crise de la transmission et une crise de l'intégration. Autrefois, on était français aussi par les poètes, hein, et on connaissait par cœur, jusque dans les chaumières, le corbeau et le renard, ouais. Ou Beaux endormis.
C'est pas l'immigration qui a enlevé ça.
Mais aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, quand on donne un poème de Victor Hugo, en l'occurrence Crépuscule au baccalauréat, les réseaux sociaux s'enflamment, ouais. Et des élèves très nombreux écrivent oui. « Fuck Victor ouais. », Victor Hugo c'est un bâtard, ouais. Il peut pas parler comme les autres, Victor Hugo enfoiré, avec ton brin d'herbe, au lieu de nous donner le sujet, t'aurais pu le fumer, etc.
Ça n'a rien à voir avec l'immigration, on est d'accord, non?
Ça n'a rien à voir, mais le rap est passé par là, et il a inspire les meutes des vivants contre les morts, ce qui est une assez bonne définition de la barbarie. Quant à la crise de l'intégration, elle existe. La preuve même, les nouveaux rapports qui s'empilent sur les bureaux des ministères, où précisément on ne veut même plus parler d'intégration, mais d'inclusion. Si vous voulez, dans une France de l'intégration, des débordements comme ceux qu'on a vus poseraient un immense problème. Dans une France de l'inclusion, on dit, mais ma foi, ce n'est pas grave, parce que chacun arrive avec son identité propre et peut l'exhiber sans prévaloir, sans aucune retenue, sans aucune limite. La France n'est plus une communauté culturelle ou politique, c'est une pure et simple addition d'identité. Mais il en va de, si vous voulez, d'un pays comme d'une équipe. Il faut une certaine mise en commun pour que ça fonctionne. L'addition des identités, ça ne fonctionne pas. Et c'est bien pourquoi, d'ailleurs, les manifestations des supporters avaient cette dimension très agressive.
Alors, il y a intégration, il y a inclusion, et puis il y a les exemples tirés de l'actualité. Nous en avons un sous la main dans la presse, Céline Fontana, et ça se passe en France, hein, en interdisant le port du voile intégral. La France contrevient-elle à la liberté d'expression? Nie-t-elle le droit à la vie privée? La Cour européenne des droits de l'homme doit trancher aujourd'hui même.
Oui, les juges de Strasbourg vont en effet se pencher aujourd'hui sur le cas d'une jeune Française qui conteste la loi française adoptée en 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. La jeune femme dit notamment se sentir dégradée sans son voile et pas respectée dans sa vie privée, c'est-à-dire dans 24 heures et la Tribune de Genève. L'État français, dans ses audiences, a cependant assuré que l'interdiction n'était pas anti-religieuse, mais répondait à des impératifs sécuritaires et un souci de favoriser l'intégration pour tous. Alors cette procédure en justice ravive un débat vif en France, également parmi les musulmans. Pour certains, cette interdiction est l'expression d'une islamophobie en progression. Chez les plus modérés, des voix regrettent que l'on donne trop de visibilité à un phénomène marginal. Il y aurait en France seulement 2000 femmes qui portent le niqab et la burqa.
Alors c'est un cas d'école, Alain Finkielkraut. Que doivent dire les juges? Que devraient dire les juges en l'occurrence? Bon, cette femme semble violer la loi, mais elle se sent dégradée. Est-ce qu'on peut la comprendre? Est-ce que vous pouvez la comprendre?
Il y a deux questions. D'abord, les juges européens ne devraient rien avoir à dire. D'accord. Écoutez, la France est une démocratie, et une démocratie au sens moderne du terme, c'est pas seulement le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est on ne gouverne pas au nom de la nation, au nom du peuple, on gouverne au nom de l'humanité.
Mais Strasbourg existe en cas de voie de recours. Hein.
Les principes des droits de l'homme sont inscrits dans notre démocratie. Nous avons des instances pour vérifier qu'ils soient appliqués, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Nous n'avons pas à déléguer la question de l'humanité à une instance suprême. L'Europe n'est pas une bureaucratie céleste. Donc je trouve scandaleux, en tant que citoyen d'une démocratie qui devrait être mûre, que nous ayons à dépendre d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas possible. Les Lumières, c'était la sortie de l'homme de sa condition de minorité. L'Europe, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, voudrait nous faire revenir à notre condition de minorité. Premièrement. Deuxièmement, je pense que la burqa est vraiment la pire des violences qui puisse être exercée sur les femmes, que ce qu'elles s'exercent avec ou non leur consentement. Et donc, je crois que la décision du législateur français était libératrice, elle était très juste, et il ne faut pas sous-estimer en France les progrès du salafisme, que constate d'ailleurs avec stupeur Gilles Kepel. Les salafistes, eh bien, leurs femmes, en effet, sont revêtues du niqab, et d'ailleurs, elles vivent séparément jusque dans les appartements, comme l'atteste un certain nombre d'enquêtes. Le régime de la coexistence des textes n'est pas celui-là en France. Nous avons une tradition de visibilité heureuse du féminin, et à cette tradition, nous ne devons renoncer sous aucun prétexte.
Alors, vous parliez de l'Europe, de Strasbourg, c'est très anti-européen ce que vous êtes en train de dire.
Absolument pas. Absolument pas.
Vous ne reconnaissez pas à Strasbourg le droit de fonctionner comme recours. Les Suisses aussi parfois vont jusqu'à Strasbourg. On ne devrait pas.
L'Europe ne doit pas être une bureaucratie céleste. Il faudrait bien voir que les décisions de la Cour suprême américaine soient contrôlées, surveillées par une instance plus haute. Ça surprendrait tout le monde, ce serait impossible. Il ne s'agit pas simplement de souveraineté, il s'agit de savoir si nous sommes une démocratie ou non, si nous sommes assez grands ou non pour nous occuper de la question des droits de l'homme. Eh bien oui, nous sommes assez grands pour le faire. Et j'aime trop la civilisation européenne pour accepter de voir cette transformation de l'Europe et cette humiliation constante des nations qui la composent.
Alors, on parlait des salafistes, on passe aux djihadistes sunnites. Patrick Chaboudet, c'est dans la presse alémanique, les sunnites qui contrôlent une partie du territoire irakien et syrien et qui ont annoncé hier la création tout simplement d'un califat.
Oui, un califat de la terreur, titre le Tages-Anzeiger. Après avoir pris le contrôle de plusieurs villes irakiennes, les djihadistes ont désormais des ambitions globales. Au premier jour du Ramadan, ils annoncent le califat. Ambition aussi dangereuse que démesurée, note le quotidien. Mais il ne faut pas négliger l'impact de la politique catastrophique du premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, qui a poussé de nombreux sunnites à soutenir les djihadistes. Et puis parmi toutes ces inconnues, une chose est sûre, note le quotidien, une intervention militaire serait le plus beau cadeau que les Occidentaux puissent faire à ce nouveau califat.
Allons droit au but, parce qu'il nous reste peu de temps, Alain Finkielkraut. Est-ce que tout ça n'est pas dû à l'intervention de 2003, d'ailleurs soutenue par la France à l'époque, enfin pas soutenue, non justement pas, mais enfin qui est, qui a été soutenu par l'Angleterre, Tony Blair, etc. Est-ce que tout ça, 11 ans après, n'est pas dû à l'intervention américaine ?
Et Ben Laden, c'était, comme l'a titré un journal français, un effet, une conséquence de l'hyperpuissance américaine.
Et pourquoi pas ?
L'Occident est coupable de tout, les autres ne sont jamais que des symptômes et des effets de sa politique horrible. Reconnaître que dans la vie collective, dans le monde, il y a plusieurs acteurs et ne pas les décharger de leurs responsabilités. L'Occident se voyait autrefois comme le maître du monde. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons une autre modalité de ce narcissisme, cette espèce de masochisme délirant. Nous ne sommes plus les maîtres de rien, mais nous sommes la cause de tout. Non, l'islamisme, on a dit aussi que c'est le conflit israélo-palestinien, donc le comportement d'Israël, qui radicalisait les musulmans. Et l'on voit ceux-ci se battre entre eux en Syrie avec une violence inouïe. Si guerre civile il y a aujourd'hui entre les chiites et les sunnites, cela ne relève pas de la responsabilité de l'Occident. Et il serait bon, justement, que nous permettions aux musulmans eux-mêmes de regarder leur propre réalité en face, au lieu de constamment se défausser sur un Occident universellement coupable.
Dernier sujet, parce que votre maman, je crois, est originaire d'un endroit qui était à l'époque en Pologne et qui est aujourd'hui en Ukraine. C'est intéressant, 400 marins russes sont arrivés en France pour prendre possession de deux navires de guerre, Patrick Chaboudet.
Oui, c'est en toute discrétion que le Smolny, un bateau école russe, a accosté hier dans le port de Saint-Nazaire, nous dit la Neue Luzerner Zeitung. À bord, les marins russes qui seront formés ces prochaines semaines sur le porte-hélicoptère Vladivostok. C'est un bateau de guerre construit par la France. Le contrat a été signé en 2008 pour une somme de 1,2 milliard d'euros. Un deuxième navire doit suivre dans les prochains mois. Et plus généralement, la Russie est le quatrième pays d'exportation pour l'industrie militaire française. Mais avec l'annexion de la Crimée et la crise ukrainienne, ce contrat est désormais au centre des polémiques. Barack Obama, par exemple, a fait part récemment à François Hollande de ses préoccupations.
Exercice radiophonique, vous êtes un homme de radio, Alain Finkielkraut, il reste 30 secondes sur l'Ukraine. On est dans un cessez-le-feu, on est un peu dans un marais pour l'instant, c'est moins violent qu'avant. L'Ukraine est européenne ou pas ?
Je pense que l'Ukraine est divisée, donc il y a des Ukrainiens qui regardent vers l'Europe, d'autres qui regardent vers la Russie. La question de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, par conséquent, ne se pose pas, mais d'un autre côté, l'aspiration ukrainienne à une véritable indépendance me semble tout à fait légitime, et la révolte de Maïdan a quand même renversé un satrape qui avait tout pour lui, des origines de gangster et une corruption absolument sans limite. Donc, je crois qu'il faut soutenir le caractère démocratique de cette révolution.
Merci beaucoup, Alain Finkielkraut, d'avoir été notre invité en direct de notre studio de Paris. Je vous souhaite une excellente journée et de bons matchs aussi. Merci.